il n'y a jamais de garantie totale de pouvoir récupérer les fonds.
Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver sur Unrusted. Aujourd'hui, notre invité, c'est Romain Chilly, qui est avocat spécialisé dans la crypto. Alors, il accompagne des victimes et des accusés d'escroquerie crypto. Il va nous raconter tout ça. C'est hyper intéressant, vous allez voir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas qu'on est toujours disponible en podcast sur toutes les plateformes. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous permet de rendre visible la chaîne, d'avoir accès à de nouveaux invités. Votre soutien est super important. C'est parti tout de suite avec Romain. Salut Romain.
Salut Claire, merci pour ton invitation.
Bah, je t'en prie, je ne sais pas si tu veux nous dire un mot sur ce que tu fais, sur ton activité.
Alors, moi, en deux mots, je suis associé au sein d'un cabinet qui s'appelle Orwell Avocat, qui a été créé maintenant il y a 6 ans, en 2018, et qui est un cabinet sectoriel spécialisé dans la crypto. Quand on a lancé le cabinet, on faisait essentiellement deux choses, donc du régulatory, c'est-à-dire accompagner des sociétés devant le régulateur pour obtenir les agréments qui vont bien, puisque la crypto est un secteur de plus en plus régulé, et puis de la fiscalité. Et progressivement, on a une activité qui au départ était assez diffuse et qui s'est structurée, c'est celle du contentieux, des litiges qui sont en lien avec la crypto.
Alors ouais, concrètement, c'est quoi, tu vois, les types de scams que tu vois arriver? C'est tous les mêmes? Il y en a certains qui se ressemblent? Comment ça se passe?
En fait, les gens viennent nous voir pour quelque chose qui s'appelle, pour une spécialité qu'on a développée, qui s'appelle l'asset recovery. En fait, les gens viennent nous voir parce qu'ils pensent qu'on peut récupérer, ou ils espèrent pouvoir qu'on les aide à récupérer leurs fonds en crypto. Et là-dessus, on a donc des situations assez diversifiées. Mais pour te donner des exemples un peu classiques de ce qu'on peut avoir, de ce qui représente quantitativement une partie importante de notre activité, on va avoir des gens qui viennent nous voir pour des situations, on va dire, de phishing assez classiques dans la crypto. Par exemple, vous confiez vos données personnelles à une société, ces données personnelles fuitent d'une façon ou d'une autre, elles vont être ensuite exploitées par des personnes. Revendus, exploités par des personnes qui ensuite vont venir vous cibler parce que c'est des données personnelles d'une boîte dans la crypto, et donc les pirates vont en déduire que vous possédez des cryptos et donc venir vous cibler.
C'est ce qui est arrivé avec Ledger, par exemple.
Ce qui est arrivé avec Ledger, c'est aussi ce qui est arrivé avec Trésor, hein, d'ailleurs, pour faire de jaloux. Les deux ont subi des pertes de données importantes, et c'est quelque chose qui est arrivé d'ailleurs dans pas mal d'autres sociétés parce que, l'industrie crypto est une industrie récente qui a mûri, on va dire, relativement rapidement, mais qui quand même a mis un petit peu de temps, mais de façon normale, à acquérir des bonnes pratiques. Et en termes de gestion des données perso, etc., il y a eu pas mal de problèmes.
Ça se passe comment? En gros, c'est des gens qui reçoivent un email, par exemple, qui cliquent sur un mauvais lien et qui vont faire une transaction, qui vont laisser leur clé privée. Et donc, ils vont perdre leurs fonds comme ça?
Il y a plusieurs modes opératoires, sous-modes opératoires du phishing. Il y a le smishing, c'est le phishing par SMS. C'est-à-dire quand vous avez dans vos données perso votre numéro de téléphone qui suit, on va soit vous envoyer un SMS, soit vous appeler. Ouais. Prenons l'exemple d'une société qui fait un hard wallet en crypto. On va vous appeler, vous dire qu'on est le service client de cette société et vous inviter par téléphone, soit à accepter une mise à jour qu'on va vous envoyer par email ou par SMS, soit à cliquer sur un lien à rentrer votre site. Il y a une diversité de pratiques, mais l'idée dans ce type d'arnaque, c'est qu'effectivement, tout part du fait que vos données personnelles ont été fuitées. Ce qui est une particularité intéressante parce que, dans certaines circonstances, ça peut vous permettre donc à la fois potentiellement de rechercher, d'essayer de récupérer les actifs que vous avez perdus vis-à-vis des escrocs eux-mêmes qui ont utilisé le fichier, mais aussi
d'engager la responsabilité
de l'intermédiaire. Bien sûr. Okay. Aussi quelque chose qui marche très fort pour les escrocs depuis quelques années, qui est assez connu, ce qu'on appelle le pig butchering en anglais, la traduction.
Boucherie de porc. La traduction est un peu bizarre.
Je crois que la traduction littérale, ça veut dire dépeçage de cochon. Ça vient du fait que c'est un mode opératoire qui consiste à amadouer la victime, la personne, en lui faisant croire qu'elle elle a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. En général, c'est des profils de jeunes femmes, en créant un lien. Donc là, on crée une
fausse romance.
On donne à manger au cochon, pour filer la métaphore, c'est ça. Et une fois que le cochon est amadoué, qu'il est en confiance dans la relation qu'il a nouée avec la personne sur les réseaux sociaux, ensuite cette personne lui fait part, en général, elle prétend qu'elle a un train de vie assez important, lui fait part des investissements qu'elle a fait, et l'invite à faire des investissements. Et donc là, on passe à la deuxième phase, qui est celle du dépeçage du cochon. C'est le pig butchery. En français, on appelle ça arnaque au sentiment. Et ça, c'est quelque chose qui marche honnêtement très très fort avec des profils de victimes extrêmement variés. Il faut pas croire que la victime d'arnaque, d'escroquerie en crypto est forcément une personne totalement néophyte, etc.
Ah oui, même les plus avisés peuvent se faire avoir.
Les plus avisés vont pas tomber dans le même type d'arnaque et d'escroquerie que les néophytes, mais dans nos clients, les victimes qui viennent nous voir d'escroquerie ou de hack ou de piratage, on a vraiment tout type de profil. Okay. Et donc là, ça m'amène peut-être à peut-être un troisième exemple de ce qu'on peut avoir dans cette catégorie de victimes particulières. C'est des gens qui sont victimes, là, non pas d'escroquerie ou de scam, mais plus de hack, des gens qui perdent leurs fonds en crypto, mais pour des considérations et en raison de manœuvres qui ont une dimension beaucoup plus technique. Les arnaques au airdrop, tu reçois un email.
Alors, c'est quoi une arnaque au airdrop, pour ceux qui nous écoutent?
Ça peut prendre, là encore, la forme d'un email, la forme d'un pop-up sur le software de votre hardware wallet ou voilà, et vous ou le fait qu'on vous envoie parfois des crypto-monnaies directement sur votre adresse, et en vous disant tu peux aller claim ton NFT ou échanger les cryptos qu'on t'a envoyé sur tel site,
et donc t'interagis avec ton wallet,
et donc t'arrives sur un site qui correspond au projet ou au nom de la crypto qui a été crédité sur ton wallet. Et ce site, en général, plutôt bien fait. Et là, il t'invite à faire une transaction par laquelle tu es censé recevoir ton NFT ou pouvoir convertir les cryptos du projet. Voilà. Et en fait, cette transaction va compromettre ton wallet et permettre aux personnes qui sont derrière de pouvoir le siphonner. On a des arnaques, on va dire, assez classiques, arnaques à la romance, des escroqueries assez classiques sur des gens. Et on a des choses qui sont beaucoup plus élaborées. Et voilà, et ça concerne, je te dis, une diversité de profils. On a effectivement un peu, entre guillemets, la Madame Michu qui souhaitait faire un investissement en crypto, qui clique sur une publicité sur Internet, qui se fait avoir. Et on a aussi, moi, dans des clients, j'ai des confrères, j'ai des chefs d'entreprise dans le secteur technologique, des chefs d'entreprise dans le secteur de la crypto qui ont aussi subi des hacks et qui ne savent pas comment l'expliquer. Voilà, j'ai des chefs d'entreprise victimes de ransomware.
Ah, donc ça touche vraiment tout le monde, en fait.
Voilà. Ouais. Voilà.
Et alors, si demain, moi, je suis victime d'une arnaque, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Peut-être avant de donner un mode opératoire, on va dire, concret sur ce qu'il faut faire, moi, j'aime bien d'abord peut-être évoquer ce qu'il ne faut pas faire quand on est victime de
donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire
d'une arnaque ou... Bon, d'abord, ne pas avoir honte.
Parce que là, tes clients, tu sens qu'ils ont honte, forcément, ça complexe.
On a des clients qui gardent la tête froide, mais on en a d'autres qui arrivent, qui sont apeurés, qui veulent pas, certains qui hésitent à faire des démarches parce qu'ils ont honte.
Surtout
de
dans les cas des arnaques à la romance, j'imagine.
Oui, et même dans des cas, on va dire, d'arnaques plus techniques, plus imprévisibles, on a des gens qui considèrent que. C'est parce qu'ils n'avaient pas les compétences, parce qu'ils n'ont pas. Alors souvent, effectivement, il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais on a des arnaques et des hacks qui ont un degré de sophistication tel aujourd'hui que même pour des personnes très aguerries, c'est compliqué de les éviter. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, je ne donnerai pas d'exemple concret, mais pour citer personne, mais vous avez plein de gens, vous avez de plus en plus de gens, même de l'industrie, qui ont avoué et qui ont publiquement maintenant dit et assumé avoir été victime d'un airdrop ou s'être fait hacker leur wallet, etc. Donc voilà, déjà ne pas avoir honte, parce que quand nous on a des clients parfois qui viennent nous voir, qui ne nous disent pas totalement la vérité ou qui... Voilà, en fait il faut la tête froide, être un peu lucide sur la situation pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est aussi de se précipiter, de se dire... alors effectivement, le timing est une considération importante quand on est victime d'un hack ou d'un scam, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter en faisant n'importe quoi, en choisissant le premier conseil qu'on choisit, que ce soit un conseil technique ou un conseil juridique. Il faut prendre le temps de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir... qui sont fait scammer, hacker ou arnaquer une première fois, et qui ensuite, parfois par les mêmes réseaux, se font avoir une deuxième fois, entre guillemets, par des personnes qui leur promettent qu'elles pourront récupérer leurs fonds.
Par des avocats, par exemple, ou...
Alors, bon, ou des conseils c'est souvent des conseils techniques, des gens qui prétendent qu'ils sont des hackers, qui pourront récupérer leurs fonds, etc. Ah, okay. Parfois, on a effectivement des personnes, des conseils juridiques qui font des promesses, on va dire, un peu mirobolantes aux clients. Ça doit être pour moi un red flag absolu. Il n'y a jamais de garantie totale de pouvoir récupérer les fonds. Ça n'existe pas. Donc, une personne qui vous garantit qu'elle pourra récupérer vos fonds, il faut la regarder avec méfiance et il faut pas signer avec. Parce que dans le meilleur des cas, c'est de la malhonnêteté intellectuelle ou on va dire des pratiques commerciales douteuses pour vous inciter à signer, etc. Et dans le pire des cas, on est sur une nouvelle arnaque ou une nouvelle escroquerie, quoi. Et surtout, bien choisir ses voies d'action, c'est-à-dire ne pas faire feu de tout bois, par exemple. J'ai un exemple assez éloquent là-dessus. Ne pas attaquer sa banque quand on a été victime d'une escroquerie à l'investissement en crypto.
Alors que pourtant, tu vois, moi je pense à des banques qui refusent de faire des transactions vers des PSAN, vers des plateformes crypto, parce qu'elles disent... que leur responsabilité pourrait être engagée si jamais quelqu'un les poursuit parce qu'il s'est fait avoir, il a fait un virement vers une plateforme qui n'était pas légitime.
C'est un argument effectivement qui est souvent et qui a été souvent invoqué par les banques, on connaît bien le sujet, même pour des particuliers qui souhaitaient de faire de simples virements vers des plateformes d'échange connues, mais cette justification sur le risque d'engagement de la responsabilité juridique de la banque, elle est fausse juridiquement, parce que nous n'avons pas un cas en jurisprudence où une victime d'escroquerie ou d'arnaque a pu engager la responsabilité de sa banque parce qu'elle avait réalisé un investissement dans la crypto. Et il y a des exemples extrêmement caricaturaux en jurisprudence un petit papy de 90 ans qui se met à investir des sommes hyper importantes sur des plateformes crypto ou vers des comptes à l'étranger et qui ensuite cherche à engager la responsabilité de sa banque. Et on a une jurisprudence même dans ces situations-là où la responsabilité de la banque n'est jamais engagée. Alors peut-être que c'est une situation, on verra, qui pourra évoluer en jurisprudence à l'avenir, mais aujourd'hui on a quand même une jurisprudence stable là-dessus qui... Ouais. Voilà. Donc, j'ai certains confrères, peut-être par méconnaissance ou pour d'autres motifs, qui proposent ce genre de solution à des victimes de scams, et c'est des solutions qui sont absolument pas pertinentes, qui vont simplement impliquer des frais de procédure hyper importants. Un résultat espéré qui est nul, quoi.
Ok. Donc ça, voilà. C'est ce qu'il faut pas faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois ? Est-ce qu'il y a une chance d'aller récupérer les fonds quand même ? Est-ce qu'il y a des poursuites engagées ?
Alors, sur ce qu'il faut faire, on peut de plus en plus récupérer les fonds. Enfin, on a des chances qui sont de plus en plus importantes pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra. Mais ce qu'il faut faire, d'abord, c'est donc choisir une voie de droit pertinente. En général, dans ce genre de situation, dans 95% des cas, et sauf quand il y a un intermédiaire qui a fait fuiter vos données, par exemple, la seule voie pertinente, c'est la voie pénale. Simplement, la voie pénale, donc ça veut dire déclencher une procédure pénale. Mais on est sur des infractions qui sont quand même très techniques.
Oui, parce que tu fais quoi ? Tu vas au commissariat ?
La vérité, malheureusement, c'est qu'il faut déclencher la voie pénale, mais que si vous faites au commissariat du coin, il y a 9 chances sur 10 que la plainte que vous avez déposée, elle serve à caler une étagère et qu'il ne se passe rien pendant 2 ans et demi et que ça finisse par un classement sans suite. C'est la vérité. Alors, la voie pénale reste la voie pertinente, mais il ne faut pas la déclencher n'importe comment. Là où vous avez les meilleures chances de résultat, c'est quand vous faites 2 choses. D'abord que vous ne vous contentez pas simplement de déposer une plainte pénale en expliquant que vous vous êtes fait arnaquer dans des circonstances X ou Y, mais c'est lorsque vous joignez à votre plainte pénale déjà un premier travail d'analyse technique. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'une escroquerie en crypto, vous envoyez vos cryptos quelque part, sur un wallet, et dans 90% des situations, assez rapidement, dans les jours, dans les semaines qui suivent l'arnaque, vous avez vos cryptos qui partent vers des échanges, vers des échangeurs.
Et pour être convertis en
pour être convertis en euros ou pour être envoyé sur un échangeur et ressortir de l'autre côté vers un autre wallet, parce qu'en fait, les exchanges sont en fait un moyen en fait extrêmement simple et accessible de blanchir des fonds, même beaucoup plus facile que les mixeurs. Et là, vous avez la possibilité de faire des saisies en crypto. Et l'idée, c'est d'identifier, de faire ce travail de traçage, de l'incorporer dans votre plainte, pour que dès que la plainte arrive dans les mains d'un procureur et d'un service de police qui soit compétent, ils puissent directement demander à ces échanges de bloquer les fonds. Voilà. En France, on a de la chance parce que on a les principaux exchanges, en tout cas ceux sur lesquels il y a la liquidité la plus importante, qui sont enregistrés en qualité de PSAN, de prestataire de services sur actifs numériques. Et donc, ils sont enregistrés en France. Et donc, ils collaborent activement avec les autorités. C'est la raison pour laquelle on a des résultats qui s'améliorent en matière de ces cryptos. Donc, faire un travail de tracing, l'incorporer dans sa plainte, et ensuite ne pas déposer plainte n'importe où. Ça, je reviens sur ce qu'on disait au départ. Donc, honnêtement, vaut mieux porter plainte que ne rien faire du tout, mais aller porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat du coin, ça risque honnêtement de pas servir à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est déposer plainte auprès du procureur de la République. Par exemple, à Paris, vous avez au sein du parquet de Paris une section du parquet qui s'appelle la section J3, qui est spécialisée en cybercriminalité. Et cette section, elle est composée de magistrats, de procureurs qui connaissent la crypto et qui travaillent avec des services qui sont spécialisés dans la crypto. Okay. Et donc, lorsque vous déposez plainte auprès du procureur, vous avez la garantie que votre demande ou votre dossier va être adressé à un service de police qui saura le traiter. Et voilà.
Parce que toi, dans tes interactions avec les autorités judiciaires, tu trouves qu'ils sont compétents sur la crypto. Là, tu parles d'un service qui connaît bien le sujet. Mais de manière générale, est-ce que tu trouves que notre système judiciaire, il sait traiter ces cas-là ?
Alors, je dirais que de manière générale, la France n'a pas à avoir honte sur ses compétences et ses capacités à traiter ce type de dossier, parce qu'on a des policiers, des gendarmes et des parquetiers qui sont compétents et qui sont formés. Mais évidemment, quantitativement, on n'en a pas assez. Je discutais avec un membre du parquet il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait que la crypto était devenue un élément central dans les compétences en matière de lutte contre la cybercriminalité, parce que, en fait, dans une affaire de cybercriminalité sur deux, quasiment, vous avez aujourd'hui de la crypto, de façon parce que c'est directement l'objet de l'infraction, soit de façon indirecte. Quand vous avez des affaires de ransomware, vous avez de la crypto quand la rançon est payée. Quand vous avez des affaires de scam, enfin tous les paiements maintenant qui impliquent de près ou de loin la commission d'une infraction en ligne se font beaucoup plus facilement quand même en crypto qu'en fiat.
Comment tu distingues, moi c'est une question qu'on me pose beaucoup, une arnaque, une escroquerie et un projet qui foire ? Parce que tu vois, il y a des gens parfois qui investissent dans un token et puis le projet foire pour raison légitime ou pas, et puis les investisseurs vont dire bah, je me suis fait avoir en fait par une équipe, eux considèrent qu'ils se sont fait arnaquer. Et puis parfois, l'équipe d'entrepreneurs va dire bah « Non, on a essayé, on n'a juste pas réussi ». Donc comment tu traces la limite entre ces deux situations ?
En fait, il faut qu'il y ait quand même un critère d'intentionnalité. Pour qu'un porteur de projet soit considéré comme étant un escroc au sens pénal du terme, il faut quand même venir démontrer que dès le départ, il avait conscience qu'il ne tiendrait pas les promesses sur lesquelles il s'était engagé et que son objectif, au regard de la façon dont il a conduit le projet, c'était bah, de lever des fonds, de se payer pendant un an avec ou de partir avec la caisse. Quoi. Ça ne veut pas dire que dans les autres situations moins caricaturales, il n'y ait pas de voie de recours. Mais ensuite, les voies de recours, elles sont davantage d'ordre civil. En fait, quand vous souscrivez à une vente de NFT ou à une ICO ou que vous investissez dans un projet d'une façon ou d'une autre, il y a des engagements contractuels qui sont pris en face. Et si ces engagements ne sont pas respectés, vous pouvez demander au juge de venir sanctionner ce non-respect du contrat en vous dédommageant.
Mais ça, c'est dans le cas où il y a un contrat. Tu vois, je pense par exemple à l'affaire Platypus, là, qui avait fait pas mal de bruit en France, là, où il y avait une sorte de smart contract qui était exploité avec une fonctionnalité bien spécifique pour récupérer des fonds ou les voler selon le parti pris qu'on prend. Ce genre d'affaire, est-ce que ça peut être qualifié comme une escroquerie ou non ? Parce que je sais que ça avait fait pas mal de bruit. Le juge avait dit, finalement, c'est pas vraiment une escroquerie.
Ouais. Alors oui, c'est une affaire qui a fait pas mal de bruit récemment. Où là, on est dans une configuration un peu différente. Où là, c'était une affaire où les personnes poursuivies étaient des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir hacké une plateforme. Ouais. Ces personnes ont finalement été relaxées. Je trouve que c'est une affaire qui pose des enjeux intéressants parce que On a qualifié d'emblée ces personnes comme étant des hackers.
Ouais.
En fait, qu'est-ce qu'un hacker ? On est dans une situation où les juges ont considéré, là, de façon assez intéressante, que certes, il y avait vraisemblablement eu retrait de fonds sur la plateforme de mauvaise foi, c'est-à-dire que vraisemblablement, les personnes, les hackers, entre guillemets, encore une fois, ils ont été relaxés, donc on avait conscience du fait qu'une partie des fonds ne devait pas leur revenir, mais ils n'ont fait qu'utiliser une fonctionnalité qui était permise par le smart contract. Il y a une image que je trouve qui est intéressante pour décrire ce genre de situation, c'est celle du distributeur à billets. Est-ce que lorsque vous allez retirer de l'argent à la banque, que vous rentrez votre carte, vous mettez votre code de carte bleue, vous demandez de retirer 100 euros, il y a 1000 euros qui vous sont crédités, vous ne savez pas trop comment, par le distributeur, donc c'est un dysfonctionnement de la machine. Est-ce que vous êtes pour autant pénalement responsable ? Moi, honnêtement, j'en suis pas sûr.
Est-ce que
en revanche, si vous avez trafiqué la machine, le distributeur de billets, pour faire en sorte que celui-ci dysfonctionne et vous donne... Là, il y a quand même une question de responsabilité pénale beaucoup plus concrète qui se pose.
Et alors, est-ce qu'on peut terminer peut-être par des conseils pour éviter de se faire arnaquer ou pour être, on va dire, dans les meilleures dispositions quand on utilise de la crypto, voilà, pour pas se faire avoir et pour pas se retrouver dans ce genre de situation ?
Enfin, je suis pas un pro-régulation absolue, mais on a quand même une réglementation qui existe en France depuis 2017 avec des personnes qui sont habilitées à proposer des investissements en actifs numériques auprès des Français. Et donc la première chose, c'est déjà de passer par ces prestataires, parce que c'est des prestataires qui sont audités, enregistrés par l'autorité des marchés financiers, qui présentent un certain nombre de garanties pour le consommateur.
Et envers lesquelles on a des recours, si jamais on a des problèmes.
Vous avez évidemment beaucoup plus de recours envers une plateforme qui est enregistrée sur le sol français, que la personne morale soit ou non à l'étranger, mais qui est enregistrée auprès du régulateur français, qu'envers une plateforme qui prétend être enregistrée à Londres, à Hong Kong, ou je ne sais quoi. Il y a une dimension pratique, quoi. C'est-à-dire que vous avez cette plateforme qui est sur le territoire français, donc qui collaborera avec les autorités, qui répondra à vos demandes, qui sera soumis à la juridiction, à la loi française, donc au médiateur de l'AMF, etc., si vous avez des difficultés. Donc la première chose, c'est ça, c'est d'investir auprès d'un acteur qui est régulé. Okay. Il y a un travail de pédagogie peut-être qu'il y a à faire là-dessus, parce que c'est assez facile de dire ça pour la personne qui découvre l'investissement en crypto, est-ce qu'elle, en général, elle ne sait pas ce qu'est un prestataire de services sur actifs numériques, etc. Donc il y a de la sensibilisation à faire, mais je pense que ce statut, il permet au moins ça, et donc voilà, se tourner vers ce genre d'acteur, et puis effectivement de prendre le temps de réfléchir avant d'investir. Mais bon, voilà, il y a une dimension un peu de bon sens qui est voilà de ne pas se précipiter et de se tourner vers des acteurs sérieux, quoi.
Ok. Bon, merci beaucoup, Romain.
Merci, Claire. Okay.
J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas à le relayer, à l'envoyer à des personnes qui auraient pu être victimes de scams crypto. Avant de terminer, abonnez-vous. Votre soutien est hyper important pour moi. Ça me permet d'avoir accès à des invités de qualité, d'avoir des histoires incroyables à vous raconter. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec non pas un, mais deux invités. On va se raconter nos anecdotes les plus folles dans la crypto. J'en dis pas plus. Je vous laisserai regarder ça. À très vite.